Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de Sainte Jeanne d'Arc. Elle a été canonisée par Benoît XV en 1920 et proclamée patronne secondaire de la France par Pie XI en 1922. Dieu l'a suscitée alors que la France était sur le point de disparaître. Aujourd'hui, les organisations non gouvernementales au service du mondialisme sont en train de grignoter la souveraineté de notre patrie et lui imposer son idéologie perverse pour lui faire perdre totalement son caractère de fille aînée de l'Église et la rendre esclave de l'étranger. Puisqu'elle est notre patronne, Sainte Jeanne d'Arc, elle interviendra certainement si nous lui demandons de nous secourir, comme l'ont fait ses contemporains au XVe siècle. Examinons d'abord quelle fut sa mission, pour comprendre ce qu'elle peut avoir encore à nous dire aujourd'hui. Cette mission, elle l'annonce elle-même à Robert de Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs, en Lorraine. « Le dauphin, dit-elle, sera roi malgré ses ennemis, et moi, je le conduirai à son sacre. Le royaume ne regarde pas le dauphin, il regarde Monseigneur. Mais Monseigneur veut que le dauphin devienne roi et tienne ce royaume en commande. » C'est-à-dire que le royaume est confié au roi par notre Seigneur Jésus-Christ, il lui est donné en dépôt. Jeanne précisera les choses au dauphin en arrivant à Chinon. Le roi des cieux, dit-elle, vous demande par moi que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims et serez le lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. Vous avez remarqué que Sainte Jeanne d'Arc n'appelle Charles VII que par le nom de dauphin. Et elle s'en est expliquée en disant « Je ne lui donnerai le titre de roi qu'après qu'il aurait été sacré et couronné à Reims, où j'ai mission de le conduire. » Pourquoi cette distinction? La raison en est que le sacre en France était la consécration nécessaire à l'autorité royale. Par le sacre, notre Seigneur conférait au roi l'investiture du royaume. Le roi était consacré au service de Dieu, c'est-à-dire qu'il devait, par son pouvoir temporel, faciliter l'œuvre sanctificatrice de l'Église. Pour que le roi puisse bien accomplir son devoir d'État, l'Église implorait en sa faveur, au cours de la cérémonie, les grâces nécessaires. Sainte Jeanne d'Arc proclame donc officiellement au nom de Dieu la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ sur la France. Elle rappelle ainsi les droits de Dieu sur la société civile. Le souverain n'est que le lieutenant du Christ. Son pouvoir ne lui est octroyé que pour développer le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela implique donc la soumission à l'Église. Le pouvoir temporel du roi, s'il est distinct du pouvoir spirituel incarné par le pape, doit cependant lui être soumis. Cette union harmonieuse des deux pouvoirs, le civil et le spirituel, n'a d'autre but que le salut des âmes. On peut les comparer à l'union du corps et de l'âme. Le corps doit être soumis à l'âme pour le bon épanouissement de la personne tout entière. C'est pour avoir été infidèle aux droits de Dieu sur la société civile que la France fut sévèrement châtiée au XVe siècle et qu'elle l'est depuis le divorce qui s'est opéré, qui a commencé à la Révolution et qui s'est achevé en 1905 à la séparation de l'Église et de l'État. En affirmant la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ sur la France, Sainte Jeanne d'Arc indique le remède aux maux qui l'affligent. Les maux, tant les maux du XVe que les maux du XXIe siècle. C'est pour réaliser cette royauté sociale de notre Seigneur qu'elle chassera l'envahisseur anglais et rétablira à la tête du royaume le roi légitime Charles VII. Elle répétera souvent que ces deux choses, chasser les Anglais et faire sacrer le roi, ne sont que les signes de sa mission. Sa mission est beaucoup plus grande que cela. Elle dépasse ces deux événements historiques. Alors cette mission, quelle est-elle? Elle nous le laisse deviner en disant que la France accomplira un jour pour le salut de la chrétienté, donc pas la France seule, de la chrétienté, un exploit grandiose qui dépasserait ce qu'on a vu jusqu'ici. Cette prophétie se trouve dans la lettre qu'elle écrivit aux Anglais le 26 avril 1429. Sa mort, survenue avant la réalisation de cet exploit, montre simplement que sa mission n'est pas achevée, car ses prophéties se sont toujours réalisées. Et elle a affirmé par ailleurs que s'il plaisait à Dieu qu'elle meure, et c'est ce qui est arrivé, avant que ce pourquoi Dieu l'avait envoyé fût accompli, nonobstant sa mort, tout ce pourquoi elle était venue s'accomplira. C'est ce qu'on peut appeler avec Monseigneur de la Suze la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Mission qui consiste, de l'avis unanime de ses contemporains et des experts, à étendre par la France le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ à toutes les nations. Cette mission, voulue par Dieu, nous a été rappelée 260 ans plus tard par Sainte Marguerite Marie en 1689. « Le divin roi, dit-elle, veut commencer par établir son empire en France et dans le cœur du roi de France. Il veut, par l'entremise du roi de France, triompher du cœur des grands de la terre. » Donc la conversion de la chrétienté, de tout l'Occident, ne viendra que par d'abord la conversion de la France. Quand cela se réalisera-t-il? Le cardinal Pie fait justement remarquer que si les saints n'apparaissent pas fortuitement sur la scène du monde, nous avons un exemple, par exemple, saint François et saint Dominique sont venus à une période critique où l'Église était en danger, et donc les papes ont eu un songe où ils voyaient le bâtiment de l'Église qui penchait, qui allait s'écrouler. Et donc, il y avait deux fois dans les songes, une fois c'était saint Dominique qui redressait le bâtiment et l'autre fois c'était saint François. Donc, ce sont deux saints qui ont été suscités à un moment critique de l'Église pour redresser l'Église, pour la sanctifier. Et il en est toujours comme ça quand le bon Dieu suscite des saints. Ce n'est non plus le hasard qui, après leur mort, la mort des saints, détermine l'époque de leur glorification. Des rapports secrets et permanents ont été établis entre l'Église triomphante au ciel et l'Église militante sur la terre. Et quand Dieu destine à de nouveaux combats sur la terre, presque toujours, il montre de nouveaux alliés et de puissants défenseurs dans les cieux. Si donc Dieu a attendu 5 siècles, on peut se demander pourquoi 5 siècles, oui, pour canoniser Sainte Jeanne d'Arc, elle a donné pour patronne à la France. Ne peut-on pas penser que sa glorification marque le début de la réalisation de sa mission posthume? Quelles que soient les voies ténébreuses vers lesquelles le monde actuel se dirige, la volonté de Dieu ne change pas. Elle n'a pas changé en 1689, 3 siècles après Sainte Jeanne d'Arc. Elle ne changera pas aujourd'hui. Alors, comment s'obtiendra cette victoire? Aux mêmes mots, les mêmes remèdes. Ce que Sainte Jeanne d'Arc a accompli au XVe siècle, dans sa mission posthume, depuis le ciel, bien sûr, eh bien, elle l'accomplira aussi de la même manière. Les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. Au XVe siècle, Jeanne a vaincu parce qu'elle a bataillé avec une armée dont les mœurs étaient réformées. Cette armée, elle l'a choisie. Elle en a éliminé tous ceux qui ne voulaient pas se confesser ni communier avant de combattre. Et c'est avec une armée en état de grâce qu'elle a obtenu la victoire. Pour éloigner les châtiments et attirer la bénédiction de Dieu, elle exerça son zèle à lutter contre le péché sur trois points. D'abord, contre les blasphémateurs. Parmi les soldats, catholiques pourtant, il y avait beaucoup de blasphémateurs. S'il s'agissait de simples soldats, elle les reprenait vertement comme elle en avait le droit et le devoir. S'il s'agissait d'officiers sur lesquels elle n'avait pas autorité, elle employait alors la bonté, la persuasion, la prière. Connaissant combien cette habitude est difficile à extirper, elle fit preuve d'ingéniosité. Elle obtint un chef de guerre qui ne jurera à l'avenir que par son bâton. Elle répandit ainsi dans l'armée ce nom inoffensif et le peuple lui-même l'adopta. Deuxième point, contre la débauche de l'armée. Elle prit des mesures énergiques pour éloigner de l'armée les femmes de mœurs légères. Le duc d'Alençon raconte qu'un jour, au retour du couronnement du roi, elle poursuivit l'épée nue à la main, une de ses filles, et la frappa si fort du plat de l'épée que celle-ci se brisa. Plus encore que ses actes de zèle, c'est son exemple et sa vertu qui transforma ces rudes guerriers. Quand la guerre l'obligeait à dormir au milieu des soldats, d'une jeune fille de 18-19 ans, elle ne quittait pas son armure, ce qui était une grande mortification. Imaginez, après avoir combattu une demi-journée ou une journée dans une armure, et ensuite le soir, dormir dans l'armure avec sa transpiration, c'était vraiment une mortification. L'effet produit sur les troupes fut immense. Ses compagnons d'armes affirment qu'ils n'auraient jamais osé tenir devant elle des propos malhonnêtes et qu'ils n'eurent jamais en sa présence de pensées impures. Sa vertu et son zèle, elle les puisait dans la prière et dans la réception fréquente des sacrements. Son page témoigne l'avoir vue souvent prier. Elle était alors plongée dans un très profond recueillement. Pour communiquer sa ferveur à ses compagnons d'armes, elle forma un petit groupe d'élite qui se réunissait matin et soir autour de la bannière avec des prêtres pour chanter des hymnes et des antiennes à la Très Sainte Vierge. Pour être admis dans ce groupe, il fallait s'être confessé le jour même. Troisième point, contre la haine des ennemis et la vengeance. Dans la France divisée en différents partis qui se combattaient les uns les autres, les hommes d'armes se livraient à toutes sortes de cruautés. On ne peut pas s'imaginer des cruautés qui ont été accomplies à cette époque. Il suffit de lire des ouvrages historiques, c'est assez horrible. Sainte Jeanne d'Arc leur donna l'exemple de la charité chrétienne, qui brilla à tel point, à l'égard même des ennemis, que non seulement elle ne blessa aucun d'eux de l'épée ou de la hache, mais que ceux qu'elle voyait gisant à terre blessés, elle les faisait relever sur le champ, secourir et soigner, à la grande admiration de tous. Avec son armée purifiée, stimulée par son exemple et ses vertus, quoique inférieure en nombre, elle repoussa les Anglais et parvint à faire sacrer le roi à Reims. C'est un vrai miracle. Comme au XVe siècle, Sainte Jeanne d'Arc, pour accomplir sa mission posthume du haut du ciel, aura besoin de se choisir une petite armée, vraiment chrétienne, purifiée des vices, de l'erreur et du péché. À l'époque, les soldats avaient des mœurs rudes, mais ils étaient catholiques. Mais maintenant, il ne reste plus beaucoup de catholiques. Même inférieure en nombre, cette armée pourra la conduire à la victoire qui consistera à chasser les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un petit peu mystérieux, mais Christine Pisan, une femme de lettres contemporaine de Jeanne, pensait que ce beau fait d'armes qu'elle a annoncé, accompli avec l'Angleterre, était une nouvelle croisade contre les hérétiques et les musulmans. On pourrait dire actuellement contre les impies et les musulmans, qui ne seront pas convertis et qui ne voudront pas se convertir. Où choisira-t-elle son armée? Parmi les bons catholiques, ou des hommes qui se convertiront à la foi catholique. Nous pouvons déjà préparer le terrain en acceptant de marcher spirituellement sous sa bannière. Du temps de Sainte-Jeanne d'Arc, le peuple avait entendu parler d'une prophétie qui annonçait une Vierge qui délivrerait la France. Et le peuple priait. La France était très divisée, mais le peuple priait. Et finalement, le bon Dieu a accordé Sainte-Jeanne d'Arc qui s'est dévoilée et qui est venue sauver la France. Donc il faut prier, il faut se préparer, vivre vraiment en bon chrétien. Et il faut le faire tant dans notre vie privée que dans notre vie sociale. Pour cela, imitez Sainte-Jeanne d'Arc. Premièrement, ayez à cœur de pratiquer la chasteté dans le mariage, de veiller à la pureté de vos enfants. Faire attention à l'usage des écrans. Et quand leur utilisation est nécessaire, on ne peut pas faire autrement, eh bien, il faut les éduquer. Comment utiliser des écrans d'une manière chrétienne. Que votre pureté intérieure se traduise aussi à l'extérieur par votre modestie chrétienne. Deuxièmement, exercez votre zèle à vaincre le respect humain, à ne pas fermer les yeux devant la malhonnêteté de vos collègues de travail, mais de les reprendre avec beaucoup de charité. Les maux de la société actuelle dans les entreprises, ils sont connus. Et notamment le vol, par exemple. Les entreprises ne peuvent plus laisser leurs outils pendant le temps du déjeuner, sinon ils ne retrouvent plus rien après le déjeuner. Donc c'est des choses qui sont maintenant courantes. Si vous êtes employeur ou avez un poste de responsabilité, faites comme Jeanne d'Arc, posez des conditions, réalistes bien sûr, pour le recrutement du personnel. Ne perdez pas votre temps ni vos forces à militer dans des mouvements politiques ou sociaux qui sont opposés directement ou indirectement ou sont indifférents au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement ça servira à rien, mais ça serait un mal. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Enfin, tout cela demande de la force, beaucoup de force, de courage, de la persévérance. Alors, comme Jeanne, recourez souvent au sacrement. Ne passez pas qu'un jour sans vous confesser. Imaginez les soldats, ils allaient tous les jours au combat. Ben, il fallait qu'ils se confessent presque tous les jours. Assistez à la messe en semaine quand c'est possible. Et surtout, priez. Par la prière, on obtient tout. Notre Seigneur nous l'a dit dans l'Évangile. Priez, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Or, c'est la volonté du bon Dieu que la France se convertisse et qu'elle accomplisse sa mission de conduire les nations à la vie chrétienne. Donc, il faut prier pour que cette volonté de notre Seigneur arrive. Priez spécialement le chapelet quotidien en ce mois de Marie, en n'oubliant pas que Marie est la patronne principale de la France. Pour l'instant, la bataille est spirituelle. Alors, demandons la grâce à Sainte Jeanne d'Arc de nous communiquer sa ferveur et son zèle pour batailler courageusement, demander cette conversion de la France, et Dieu nous l'obtiendra. Quant à l'heure, elle est réservée à sa providence. Mais nous avons notre rôle à jouer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.